Cette semaine, dans le balado, on cherche à détrôner la hotte de l'école et on envoie un doigt d'honneur bien senti à l'industrie littéraire américaine. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, bonne année!
Bonne année à toi également. Bon. Et est-ce que on dit ça encore, la hotte de l'école?
Je sais plus. Ça fait aussi longtemps, pas aussi longtemps que toi, mais quand même, ça fait longtemps que je n'ai pas été au secondaire pour savoir...
On aurait dû demander aux petits jeunes qui nous entourent c'est quoi
oui,
le nouveau terme à la mode utilisé.
Ouais, les cool. Est-ce qu'on dit encore cool ou ça témoigne de notre âge?
Probablement. Les fetch, comme on dit peut-être.
Ah,
c'est peut-être
tu
le
vois,
nouveau
je
terme.
Savais même pas. Bon.
Ouais, c'est en lien avec le film
comment,
de la semaine.
Se sentir vieux qu'en parlant des expressions des jeunes, voilà.
Tout à fait. Sinon, un bon temps des fêtes où tu as profité pour venir au cinéma.
Oui, je suis venu voir presque tous les films là, du 22-25 décembre qu'on n'avait pas pu couvrir. Mm-hmm. Puis, ben, je dis ça poliment, j'ai apprécié. J'ai vu Ferrari, j'ai vu Migration, j'ai vu The Color Purple, pas les Boys in the Boat, je sais pas, m'intéressait pas. Mm-hmm. Mais finalement, tu sais, on attendait un peu pour faire notre revue, notre best de l'année, mais bon, on aurait pu le faire avant.
D'accord, il n'y a rien qui est venu changer ton classement.
Non, c'est ça, c'était bien de voir Partings, par exemple, là, mais les sorties du 25, non, ça allait. Là. C'était pas désagréable, mais... Elles ne sont pas dans mes trucs mémorables.
Ouais, puis même au nouveau box-office, j'étais un peu surpris par The Boys in the Boat, qui a quand même bien fonctionné aux États-Unis.
Mais il était
là.
Très limité aussi, ouais. Fait que ça a dû aider sa sortie.
Mais je pense qu'il a rendu à pas loin de 40 millions quand même au box-office. Okay. Très étonnant, ouais.
J'ai pas vu ça aller. Je pense que c'est Ferrari qui déçoit, justement.
Ouais, ouais, tout à fait.
Surtout... Ça reste un film... Je sais pas comment dire, un peu d'auteur dans une certaine façon. C'est un biopic, c'est pas un blockbuster. Là,
mm-hmm. C'est pas un biopic
traitement.
Classique non plus, comme tu
non,
disais.
Non, exactement. On se concentre sur une année et tout, mais je pense qu'il s'attendait à aller jouer dans les plus de 50 millions et autres. Puis aux États, je pense qu'il était en dessous du Iron Claw, qui lui est un film indie biopic. Fait que vraiment, je pense qu'il sous-performe Ferrari.
Oui, vraiment. Surtout,
il ne gagnera pas la course.
Vu son budget non plus, mais je pense que c'est pas loin de 80 millions. Là, fait que c'est quand même...
Hey, pour vrai...
Et toi-même, tu as dit qu'à l'écran, ça paraît
pas
tout le temps.
Je pensais
pas
que c'était ça. Tu m'aurais appris que c'était 35, puis j'aurais fait « Oui, OK, c'est ça, ils ont bien fait avec ce qu'il y avait. » Mais non, ça sonne pas comme un 80. Il y a une grosse séquence d'un moment donné d'action, d'accident de voiture, puis ça a l'air d'avoir... pas eu ce budget-là, où il leur en restait plus rendu là, peut-être. Mais bref, toi, t'es-tu allé au cinéma pantoute?
Non, c'est ça, ça faisait partie de mes résolutions, de mes intentions.
De pas y aller?
D'y okay. aller, au contraire. Mais non, c'est ça, on avait fait une petite saucette à New York pendant quelques jours.
Ah ben, c'est pas mal. Puis t'es pas allé au cinéma à New York?
Pas allé à New York, j'allais voir des comédies musicales. C'est un peu en lien en cinéma, je peux vanter ou en fait conseiller les gens à aller voir le musical Back to the Future. Si vous planifiez aller visiter New York puis vous aimez les comédies musicales, honnêtement, une excellente adaptation sur scène là, du film. On a même intégré une DeLorean, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise, mais ça flash pas mal. Ouais, ouais. Fait que bien.
Je vous laisse la surprise, comme si tout le monde allait y aller, ça serait peut-être plus spoilé là, pour le peu de pourcentage de l'auditoire qui va littéralement y aller.
Non, mais je ne me l'ai pas fait spoiler, fait que je le ferai pas. Okay. Ça vaut vraiment la peine quand même. C'est super intéressant.
Je vais aller. Ah oui, ben là, je parlais de notre top de l'année. Ben, on va le sortir. Ouais. On va l'enregistrer aujourd'hui, mais je pense qu'il va sortir après cet épisode ici, vu qu'on est déjà vendredi et qu'on veut recommencer à parler des sorties de la semaine.
Un exercice qui est toujours dur à faire. Ça a été un peu déchirant pour ma part.
Oui, puis c'est peut-être moi aussi qui a ralenti le procédé. Peut-être que tu étais un peu plus prêt que moi, puis j'étais comme, ah, je sais pas. Genre, top 20, là, ça serait facile, là, mais genre top 5. Ouais, à un moment donné, il a fallu que je me dise « OK, c'est ça, puis c'est ça, puis tu repenses à pourquoi. » Il y a beaucoup de films que j'ai vraiment appréciés. C'était vraiment une belle année.
Oui, vraiment, oui.
Mais bon, on en reparlera dans l'épisode dédié à ça, dans l'épisode spécial dédié à ça.
Tout à fait.
Bon, il s'est-tu passé des nouvelles là, depuis 3-4 semaines, justement?
Ben, je dirais beaucoup dans la dernière semaine. Okay. Pour moi, le temps des fêtes, tout Hollywood a fait relâche un peu. Mais cette semaine, ça y est là, autos, comme on dit. Mais en fait, je voulais revenir sur la fameuse soirée des Golden Globes qui a eu dimanche dernier. De mémoire, je pense que c'était un peu plus tôt. Peut-être que la dernière fois, ça l'était aussi, mais habituellement, c'était plus fin janvier. Donc, bref, on appelle ça le 7 janvier, c'était dimanche le 7. Donc, sans grande surprise, Oppenheimer est sorti le grand gagnant quand même, là, avec 5 prix. meilleur film, meilleur réalisateur pour Nolan. Quand même dur à croire que c'est son premier Golden Globe pour Christopher Nolan, quand
ah ouais,
même.
Okay.
Ouais. Meilleur
J'aurais
acteur.
Cru qu'avec Dunkirk, il serait allé en chercher. Je
ouais,
sais pas
moi aussi,
quoi,
je me rappelais plus.
À l'époque, là, 2017. Genre.
Ouais, donc acteur, donc Cillian Murphy, Robert Downey Jr., qui a peut-être un peu causé une certaine surprise, mais il semble avoir un. Beaucoup de buzz, beaucoup de traction pour lui aussi, pour les Oscars. Et meilleure musique aussi pour Ludwig Göransson.
Ouais.
Alors, voilà. Sinon, Barbie, écoute, on a remporté deux. On a comme qualifié ça un peu de déception. En même temps, on ne pouvait pas s'attendre à ce que Margot Robbie remporte
c'est
non
ça,
plus
ça
l'Oscar.
Va être,
là, tu sais.
Je pense que ça vaut peut-être des nominations, mais ça va être dur d'aller gagner ouais. avec quelque chose qui est plus comique, joyeux comme ça.
Donc, on a gagné un nouveau prix qu'on a créé justement pour les blockbusters, les films plus commerciaux. Alors, c'est un genre Box Office Achievement Award. Là, donc,
c'est toujours le... film qui fait le plus d'argent au bout de l'année qui va le gagner?
Ben, c'est la première édition. C'est okay. vraiment
pas. À date, c'est ça.
À date, c'est ça. Fait qu'on sait pas si ça va être ça. Je sais pas non plus si c'est voté. Ben oui, ça doit être voté par les journalistes aussi. Je pense pas que c'est un vote du public. En tout cas, peu importe. Donc, Barbie a remporté cette première édition de ce nouveau prix.
Mais il y a comme pas de nomination, c'est juste.
Oui, okay. oui c'est ça.
Fait que c'était parmi, mettons, les.
Plus.
OK.
C'était pas nécessairement les top parce que t'avais Barbie, t'avais Oppenheimer, t'as également nominé là. T'avais Taylor Swift, The Eras Tour.
OK.
Je ne me rappelle plus des autres.
Okay, qui donc, sont démarqués à leur façon, des fois peut-être plus gros week-end, dans leur genre.
J'ai l'impression que c'est comme les grands succès du box-office qui ont eu un bon succès critique aussi.
OK.
C'est genre,
c'est très
large, Jones n'était pas là, Mission Impossible, qui avait été bien reçu, n'était pas là non plus.
C'est ça.
Et aussi Barbie a remporté meilleure chanson. Là, c'était comme, écoute, il y avait trois chansons en nomination sur six. Là, fait
ouais,
qu'il y avait...
Mais
c'est pas celle qu'on pensait.
Ben moi, j'aurais aimé mieux I'm Just Ken.
Ouais, ben moi aussi. Finalement, c'est Billie Eilish qui a gagné pour What Am I Made For, la chanson tristounette là, vers la fin du film. Là.
Ouais, c'est ça.
Donc, en tout cas, je pense qu'il s'est mis en bonne position pour les Oscars également. À noter aussi Poor Things, qui semble avoir causé la surprise dans la catégorie meilleur film comédie ou musical, parce qu'on sait que les Golden Globes ont deux catégories de films, devant Barbie, justement. Et Emma Stone, en grande surprise, elle a emporté meilleure actrice comédie.
Ouais. Elle pourrait l'avoir aux Oscars.
Écoute, ça va être le duel entre elle et Lily Gladstone, assurément, qui a gagné pour Killer of the Flower Moons, actrice drame. Et ce qui a causé peut-être un peu la surprise dans la soirée aussi, c'est Anatomie d'une chute qui a remporté meilleur scénario.
Puis meilleur film étranger.
Et meilleur film étranger.
En langue étrangère.
Ouais, en langue étrangère. Et animation, Le garçon et l'héron. Fait que bref.
C'est ça.
Voilà pour les Golden Globes.
Mais là, puis là, on parle des Oscars qui devraient gagner. Les nominations seront diffusées, je pense, 26 janvier, quelque chose comme ça, fin du mois, il me semble.
Oui, ouais, tout à fait.
Vont être dévoilées. Fait que c'est juste des présomptions que Emma Stone va y être, là, va en être.
Ben, généralement, les Golden Globes, tu sais, à 90% près, les gens
oui,
sont toujours en nomination aux Oscars.
Il faut comme diviser par deux, parce qu'ils mettent 5 comédies, 5 drames, mais là, aux Oscars, t'es 5 tout court. Fait qu'il y en a qui sautent, là.
Ben, le meilleur film, t'en as 10, par contre, mais c'est pour les catégories
oui, mais pour les actrices, acteurs.
C'est ça. Mais tu sais, il y en a qui sont, c'est sûr, qui seront pas là, puis qui sont plus là parce que justement, au Golden Globes, on a deux catégories.
Il en faut plus.
Il en faut un petit peu plus, là, on s'entend.
Je pense que, moi, c'est ça, Emma Stone, des bonnes chances.
Écoute,
mais tu vois,
entre les deux, je la choisirais plus que Lily Gladstone, bien que j'ai vraiment aimé, mais je trouve que le rôle d'Emma Stone dans Poor Things était plus éclaté,
plus
audacieux.
Physique, un peu, hein,
tout repose sur elle aussi. Elle est de quasiment tous les plans. Mm-hmm. Fait que.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que peut-être justement Margot Robbie pourrait sauter. Pourrait ne même pas être nommée.
Je pense
sans
que ça va être le cas.
C'est juste les drames percutent toujours plus que les comédies.
Je pense que Gosling va l'être en acteur de soutien, mais effectivement, je pense pas qu'il va y avoir d'autres nominations de comédien pour Barbie.
À quoi je pensais? Ah oui, Anatomie d'une chute, cela dit, comme on discutait. Oui, c'est le grand tollé revient encore plus fort que jamais que la France ne l'ait pas soumis à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.
Ouais.
Cela dit, les carottes ne sont pas encore cuites pour La Passion de Dodin Bouffant. C'est quand on va connaître la liste finale qu'on va savoir s'il fait la cote ou pas. Mais le film peut quand même soumettre sa candidature dans différentes catégories
tout
et peut-être retenu en scénario, en réalisation.
Et même meilleur film dans la catégorie principale. Donc, ce serait quand même ironique qu'il le soit, puis que l'autre ne le soit pas retenu. Là.
Ben, ils vont se faire mettre d'en face.
Ben, c'est clair.
Imagine
c'est
qu'il gagne meilleur film, puis que l'autre, là, il même pas. Mais je sais pas s'il gagnerait. En tout cas, ça va dépendre quand il y aura la liste, là, mais je pense que c'est plus un. Même un Oppenheimer ou quelque chose de
tout,
je sais
bon,
pas,
oui,
plus américain, là, qui va sûrement l'avoir. Là, ça avait. Quand Parasite avait gagné, on a entendu parler longtemps. Là, c'était surprenant. T'sais.
C'est plus l'exception, effectivement, que la règle. Sinon, cette semaine, plusieurs nominations pour les différents galas de guildes. Donc, la guilde des réalisateurs ont annoncé leur finaliste. Donc, sans grande surprise, on retrouve Christopher Nolan, Greta Gerwig, Alexander Payne pour The Holdovers, Scorsese et Yorgos Lanthimos pour Poor Things. Ouais, alors,
il va y avoir une espèce de... Il y a un genre de top 7 de réal cette année que choisissez 5 dans ces 7-là, puis ils sont dans toutes les cérémonies. Puis, tu sais, les remises, pour ceux qui ne nous écoutent pas depuis toujours, là, les prix de toutes les guildes là, des réalisateurs, des comédiens, des scénaristes, c'est le genre d'affaires qu'on s'en fout en général parce qu'il n'y a pas tant de glam autour. Mais toi, fin renard et fin prédicteur des Oscars,
statisticien,
c'est quelque chose de très important juste de savoir qui gagne là. Ça reflète souvent là, un genre de 8 années sur 10 qui va réellement le gagner. Il y a l'an dernier qu'on s'est fait avoir, là, mais c'était l'année d'exception peut-être.
Oui, avec
à
ce
cause
film
de All Quiet on the Western Front de Netflix qui était comme pas nomination nulle part ailleurs. Puis lui aussi, c'était comme un film étranger, mais dans toutes les catégories. Mm-hmm. Puis finalement, il l'a gagné à plein d'endroits. Puis que,
sinon aussi,
parce que les autres qu'on oublie, parce que nous, on couvre juste le cinéma en salle, c'est que j'aime. Fait que d'ailleurs, dans le temps des fêtes, j'ai vu quelques-uns des films, entre autres, de Netflix. Là. J'ai pas encore écouté Maestro, mais ça n'est un que Bradley
écouté,
Cooper, puis il va être en nomination un petit peu à gauche puis à droite.
Assurément, tout comme meilleur acteur, mais j'ai hâte de voir pour le reste, si tu vois, il est pas en nomination pour réalisateur. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'où va s'inscrire, mais c'est sûr qu'esthétiquement, c'est un film qui est magnifique. Là, fait que je ne serais pas surpris de voir direction photo, conception artistique, costume là, dans ces trucs-là. Quand un film d'époque en
maquillage, partie maquillage.
Écoute, honnêtement, là, je dirais surtout quand il incarne le plus vieux Leonard Bernstein. Là, et c'est hallucinant comment il est méconnaissable. Là.
Okay.
C'est extrêmement bien fait. Parce que souvent, on se moque souvent de Tom Hanks en Colonel Parker dans Moulin Rouge, là, que c'était affreux.
Pas Moulin Rouge dans,
Dans
Elvis.
Dans Moulin Rouge. Dans Elvis, alors que là, c'est tellement saisissant et réel, son maquillage là, de vieux. Là,
ben, il sera dans mon rattrapage prix Oscar dans les prochaines semaines.
Puis justement, parlant de comédien, tu l'as mentionné, Bradley Cooper, donc en nomination, lui, pour la Guilde des acteurs aussi. Okay. Donc, on a sorti ça. Alors, je vais rapidement. Meilleur acteur, donc Bradley Cooper, Maestro. On a Coleman Domingo de Rustin.
Ça, c'est le film que je sais pas c'est quoi, puis qui ramasse des nominations un petit peu à gauche et à droite.
Paul Giamatti de Holdovers, qui avait remporté justement Golden Globes, acteur comédie. Cillian Murphy, Oppenheimer. Jeffrey Wright, American Fiction, dont on va vous parler plus tard dans l'émission. Acteur de soutien, on retrouve Sterling K. Brown d'American Fiction aussi.
Ouais.
Willem Dafoe, Poor Things. De Niro, Killer of the Flower Moons. Robert Downey Jr., Oppenheimer. Et Ryan Gosling, Barbie.
Okay.
Donc, tout ça a bien du sens. Du côté des dames maintenant, comédienne Annette Bening de Naiad. Lily Gladstone.
Ça, je ne sais pas c'est quoi. Je l'ai vu passer. Je ne sais pas c'est quoi ce film-là.
Ouais, mais non plus. J'ai aucune. Jodie Foster aussi qui est dedans, de mémoire, c'est ça.
Ça doit être un film de plateforme, mais je ne sais pas quel. Puis...
Donc, Lily Gladstone, Killer of the Flower Moons. Carey Mulligan pour Maestro. Margot Robbie, Barbie. Emma Stone, Poor Things. Et actrice soutien, Emily Blunt, Oppenheimer, Danielle Brooks, The Color Purple. Ça a été une surprise. Penelope Cruz, Ferrari.
Okay.
Jodie Foster pour Naiad. Et Divine Joy Randolph, The Holdovers, qu'on peut tout de suite lui donner. Elle, je pense qu'elle va.
Ouais, elle l'a gagné au Golden Globe aussi, je crois.
Ouais, c'est ça. Elle va cruiser jusqu'aux Oscars, c'est assurément ce qui va arriver. Donc, voilà pour les différentes nominations de la semaine.
Puis, puis là, nous, c'est parce qu'on parle du côté cinéma, mais chaque fois dans ces catégories-là, il y a aussi ces cérémonies-là, la télé, mini-séries, longues séries.
Sitcom, comme on dit.
Oui, c'est ça, exact. Là, ça dure pas juste 20 minutes comme cérémonie. Là. Faites-vous-en pas, c'est long. Mais ils sont pas télédiffusés de petites affaires-là, je pense.
Non, c'est ça, quand même assez.
C'est
comme
niché,
tu dis, trop niché.
Si les Golden Globes ont failli être cancellés, imagine juste les syndicats des techniciens sonores, là, leur remise de prix à eux. Là.
Grandeur d'écoute sur NBC.
C'est ça, meilleur son dans un format publicitaire télé de moins de 30 secondes. Là. T'es comme, ouais, c'est ça. Hey, moi, j'avais envie de parler que ça se concrétise, là, ça s'en vient. 28 années plus tard, 28 oui. years later, Alex Garland, qui d'ailleurs nous offre... ce printemps, le film Civil War, Guerre mm-hmm. civile, qui scénarise et réalise. Mais lui, on oublie qu'avant de commencer à réaliser des films, dont Ex Machina, il était juste, entre guillemets, un scénariste.
Oui, puis il est scénariste attitré de Danny Boyle quand même.
C'est ça, parce qu'il a fait La Plage, il a fait, entre autres, 28 jours plus tard. C'est ça, le premier.
Il a fait Trainspotting aussi. Ouais, puis okay. moi, vraiment, des petits bijoux, si vous n'avez pas vu ce film-là, c'était le premier de Danny Boyle, si ma mémoire est bonne, c'est Shallow Grave, Petit Meurtre entre amis. Okay. Avec Ewan McGregor, qui était aussi son premier film, juste avant Trainspotting. Vraiment un beau petit film noir à voir. Shallow Grave, retenez ça.
Fait que, bref, le duo Garland au scénario et Danny Boyle à la réalisation reviendrait pour, après avoir eu 28 Days, il y a eu 28 Weeks, mm-hmm. puis là, on serait 28 Years, donc 28 années plus tard, film de zombies, dans le fond, là, qui se passait, qui nous avait fait connaître, entre autres, Cillian Murphy, justement, dans le premier.
Je pense que c'est pour les zombies qui courent aussi.
Oui, c'est ouais, ça. Ils ne sont pas lents et stupides. Ils sont agressifs et rapides. Vraiment un cool film. Et puis peut-être un des... En tout cas, premier au mainstream britannique, dans le fond. Mm-hmm. Il n'était pas américain. Non, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'était super. Et sauf que là, on n'est pas en tournage. On est plus... C'est écrit. On est au moment du pitch pour avoir des investisseurs, des producteurs. Et ça serait potentiellement même une trilogie.
Ben oui, quand même.
Fait que c'est pas, ce film-là n'est pas la fin de la trilogie, il serait le début d'une trilogie avec sûrement des nouveaux personnages, des choses comme ça. Et Garland, lui, s'occuperait d'écrire les trois scénarios. Boyle est juste confirmé pour la première réalisation. Là. Ça se peut aussi qu'il n'ait pas envie d'être dans le même univers pendant 12 ans. Là.
Et j'ai vu que Cillian Murphy serait prêt à revenir, lui, pour le prochain film, ce qu'on lui a demandé, justement. Puis écoute... dit, les gars m'ont parlé, ils avaient une bonne idée, fait que moi je suis partant.
C'est drôle, en plus, qu'il a fait aussi un genre de survivaliste comme ça avec le film de John Krasinski. Là,
A Quiet Place 2,
dans le fond, là, qui était un peu le genre de Beginning. Non, c'était pas le Beginning, c'est ce qu'on voyait à Prequel, là, en tout cas. Il faisait aussi là, cette espèce de vieux survivant-là qui se cache et tout, fait qu'il pourrait être un peu le même genre de personnage.
Bien sûr.
Bref, moi, je suis très curieux de ça et ça me donne envie de réécouter les deux premiers.
Ben, parlant de films d'horreur, justement, cette semaine, c'était... La valse ou la chaise musicale pour deux productions qui viennent de perdre leur réalisateur.
OK.
Un sans grande surprise, Frisson 7, Scream 7.
Ouais, ben là, ce film-là, il faut qu'il reset. Vous pouvez faire un Scream 7 si vous voulez, mais là, vous avez perdu vos deux comédiennes sur qui vous vouliez ancrer la suite.
Ouais.
Puis là, vous avez plus les réals qui vous ont donné les succès des deux derniers qui ont fait. 6 mm-hmm. puis 7, ouais, c'est ça.
5 puis 6.
Ah oui, ça va être le 7, ouais, OK. Fait que là, on recommence, s'il vous plaît. Là. Trouvez-vous un autre réal, trouvez-vous d'autres personnages. Ben, continuez Scream, si vous voulez. Là,
mais ouais. C'était Christopher Landon qui devait tourner ce nouveau chapitre-là qu'il nous avait donné. C'était Happy Death Day.
C'était même plus déjà Radio Silence, c'était confirmé qu'il ne revenait pas.
Lui, il a comme réalisé, finalement, ben, moi j'ai signé sur un projet, finalement, qui ne sera pas du tout.
Oui, parce que les deux actrices viennent de partir.
Là, effectivement. Fait qu'il a dit, ben, finalement, je laisse ma place à quelqu'un.
Ouais, puis il doit sentir que c'est le genre d'affaire qui va tomber dans une espèce de limbe de production, puis comme tu sais, il était supposé probablement commencer à tourner dans quelques mois,
oui,
puis là tout fout le camp, puis ça va finir que on tourne dans 18 mois, puis c'est comme regarde, faut que j'aille faire d'autres choses.
C'est ça, tout à fait. Sinon, un non plus qui n'est pas une grande surprise, c'est The Exorcist, qui on savait que. Se préparer une nouvelle trilogie dont le premier volet était sorti à l'automne de David Gordon Green.
Ouais, qui a été très mal reçu.
Floppé solide. Donc, ouais, Universal ont comme dit ben merci à David Gordon Green, mais on va aller ailleurs pour une suite.
Ah, ben tu vois, je pensais même pas qu'il ferait un communiqué. Je pensais qu'il ferait comme les aventures de Dumbledore, les animaux fantastiques, de juste hey, à un moment donné, on n'en parle plus.
En dessous ça, ben écoute, je pense que.
Mais ils ont l'air à vouloir repartir la franchise.
Ben, ils veulent rentabiliser quand même leur investissement de 400 millions que les droits leur ont coûté. Alors, c'est sûr qu'ils vont de l'avant avec une suite, mais avec une nouvelle équipe artistique derrière. Là. Fait que le projet retardé devait sortir au printemps 2025. Je suspecte que ça va peut-être juste à l'automne, là, le temps qu'on reparte le scénario de ça.
Mais, ouais. Mais voilà. En tout cas. je leur conseille. Moi, de toutes mes connaissances, j'ai l'impression que s'ils ressortent la suite ou une autre mouture ou un remake ou un autre reboot de je sais pas quoi, de pas retourner en octobre parce que là, ils se sont brûlés.
Ouais.
Faut que tu changes de période parce que les gens, ils te feront plus confiance. Là, ou changer de médium ou aller en série télé ou je sais pas trop, mais...
Ça va être une saga à suivre.
Ouais, avec grand intérêt. Non, je pense que ça a quand même terni. Ça annule rien au premier film, mais ça fait diminuer la qualité.
Ouais, ouais, c'est clair. Avec une nouvelle suite, ça va être casse-gueule là, parce que là, faut que tu convainques les gens de revenir une autre fois pour leur donner
une chance.
Puis là,
ils ont déjà utilisé là, Ellen Burstyn, puis il y avait le caméo de l'autre, j'oublie son nom, excuse-moi, l'autre comédienne à
Linda
la fin,
Blair,
Linda
ouais.
Blair. Fait que là, où tu vas complètement avec Blair, ou tu es comme, ben désolé, j'ai brûlé les retours tant attendus depuis 50 ans. Mm. En tout cas.
Sinon, du côté de Star Wars, on a annoncé officiellement un nouveau film cette semaine pour les amateurs de Star Wars. Donc, on sait qu'il y a deux dates de bloquées pour 2025. Donc, il y aura un nouveau film au mois de mai et un autre en décembre. On n'a pas confirmé lesquels. On sait déjà qu'il y avait un épisode 10, mais en tout cas, un nouveau film avec le personnage de Rey, avec Daisy Ridley qui revient. Je pense que le scénario est terminé, puis on est en pré-prod là. Fait que je pense que la production devrait se faire cette année. Donc, est-ce que ça reste un des films qui va sortir à ces deux dates-là? Sinon, on a confirmé qu'il y aura The Mandalorian et Grogu. Évidemment, la sensation de la plateforme, le bébé Yoda. Okay. Grogu. Jon Favreau qui va réaliser donc le film, lui qui est derrière la création de cette série télé-là. Par contre, on a confirmé quand même qu'il y avait une quatrième saison aussi en préparation, donc ce ne sera pas une finalité nécessairement au personnage. Reste à savoir où ça va se situer dans l'espace-temps. Mais je pense que pour beaucoup d'amateurs, c'est un développement logique. Là. La série est vraiment bien appréciée. Je pense que
ça serait du 2025?
Ou 2025, même... de ce que je comprends, moi, qu'on nous arrive avec un autre projet surprise qui va prendre cette place-là.
Il faudrait qu'ils mettent quasiment 10 mois d'intervalle, les deux films. Tu ne sors pas deux films de Star Wars en 4 mois d'intervalle.
Ah ben, c'était 6 mois. Fait que mai puis décembre.
OK. Je trouve ça serré.
Moi, je trouve ça...
Je sais que c'est les deux grosses périodes, mais...
Ouais. De la même année, moi aussi, je trouve ça audacieux.
Honnêtement, c'était... je ferais 18 mois, moi. Je ferais comme un été, tu sais, ou un Noël, puis l'autre été,
ouais.
Ou l'été, puis...
Ou deux mois de mai,
qu'ils
là,
veulent,
peut-être.
Puis
là.
Le temps passe vite, puis etc., mais... Ouais. Ça se nuit un peu.
Mais la dernière année qu'ils ont fait ça, effectivement, c'était Solo qui en avait souffert, qui était sorti.
Ouais, mais là, c'est pas à cause de la date. Ben, non, tu vois, il avait sorti au 6 mois ou il avait sorti en 18
mois?
Ouais,
6 mois.
Ouais, c'est ça, exact.
C'était peut-être trop tôt.
C'était trop tôt, puis il y a eu d'autres problèmes.
Ouais,
hein? Okay.
C'est sûr, puis je pense que le film intéressait moins les gens aussi, mais bref. On va pouvoir voir les aventures du Mandalorian au grand écran. Et dernière nouvelle, parce qu'on avait beaucoup quand même, Tom Cruise qui signe une entente avec les studios Warner. Alors, on sait que Tom Cruise a été... il ne quitte pas. C'est quand même curieux. Même si Tom Cruise est pratiquement toujours affilié avec Paramount, là, je pense que 80% de ses films, c'est avec ce studio-là, il n'avait jamais de bureau nécessairement avec Paramount. Donc là, il va vraiment avoir ses bureaux. Avec Warner, sur le lot. Donc, il va vraiment développer des projets pour eux. Mais n'a pas d'entente d'exclusivité, parce que souvent, ça va être ça quand un producteur ou un comédien ou tout ça signe une entente de production, c'est que pas tous les projets peuvent être faits, mais ils ont un droit de refus. Fait que s'ils veulent développer quelque chose, ils l'offrent à Warner en premier. Exemple, c'est avec Warner. Puis s'ils veulent pas, ils ont la liberté de le magasiner ailleurs. Alors, il n'y a même pas ce genre d'entente-là.
OK, fait qu'il pitche ce qu'il veut.
Ce qu'il veut, mais il peut aller développer d'autres trucs ailleurs. C'est quand même drôle d'entente, là, mais je pense qu'on veut juste avoir le brand de Cruise, puis je pense que Warner sont fiers de l'annoncer. Mais ce qui est quand même ironique, deux jours plus tard,
ben, c'est ça, okay.
On annonce qu'il y a un Top Gun 3 en développement avec Paramount.
Avec Paramount, c'est ça.
C'est quand même drôle, mais...
C'est plus une grande annonce pour dire « Hey, on va peut-être avoir des projets de Tom Cruise. » Mais je pense qu'il a déjà joué dans des films de chez Warner, mais c'est au niveau de la production puis d'être idéateur derrière tout ça, parce que...
C'est ça.
Il me semble le film avec Emily Blunt, « Live, Die, Repeat », Edge of Tomorrow, je pense que c'était du Warner.
C'est son dernier avec Warner qui était 2014. D'ailleurs, il y aurait comme un prequel, en tout cas un autre film.
C'était avec c'était Joseph Kosinski?
C'était Doug Liman qui avait réalisé. Donc, il aurait ça dans le collimateur, mais je pense qu'il veut développer d'autres franchises, là, parce qu'évidemment, Mission Impossible semble un peu se terminer. De ce que j'ai lu un peu à travers les lignes, puis dans les différents sites un peu des fois de potins d'Hollywood, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tension entre lui et Paramount. D'ailleurs, avec le nouveau Mission Impossible, où les frais de budget ont explosé et tout ça, ça a l'air que Cruise coopère beaucoup moins qu'auparavant.
Probablement qu'il veut pas faire de compromis.
Effectivement, c'est ça.
Puis qui je suis, ça serait ça. Probablement qu'il veut un dernier film à la hauteur, plus de budget, tout. Puis ils sont comme, ouais, mais là, il était super bon, là, le dernier, mais ouais. Il n'a pas rencontré le succès escompté. Sûrement qu'il visait 1 milliard, puis il a fait comme 500, ou ouais, 600.
Même pas 700,
hein.
Je pense. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Fait que là,
donc, oui, puis ça a l'air que qu'il y avait certaines tensions, puis le fait que le film a perdu d'argent au box-office quand même là, pour eux. Donc, je pense qu'il est allé comme... C'est donné cette option-là, d'aller voir ailleurs, comme on dit. Alors, ça va être à suivre.
Oui, c'est ça. Puis pour ce qui est de... Top Gun 3, il y aurait le personnage de Miles Teller, oui. Et celui de
Maverick.
Oui, mais j'oublie l'autre gobelon costaud sexy, là, lui qui était dans le film de la romance, là, Anyone But You, qui
ouais, sortait. Ben, le fils de Goose, mais effectivement. Que son...
Non, c'est pas le fils de Goose.
Ah non, c'est plus oui, l'autre a raison, mais oui, excusez-moi. Oui. Il était l'ennemi de.
C'est ça,
fils
je
de
m'excuse
Goose,
de crier à la maison son nom, là, ouais, en tout cas, ce mec-là. Là. C'était dans Devotion aussi. Oui, là, et tout.
Oui d'ailleurs, ça aussi, c'est une des surprises de Noël, la comédie.
Ah, t'es allé?
Non, mais okay. Qui est au temple de box-office.
Oui, oui, okay,
écoute,
okay.
Il a commencé très lentement, mais fonctionnait bien toujours. Même le deuxième week-end a été plus gros, ce qui est très rare maintenant qu'un film emporte plus d'argent. Fait que, bref, fait que oui, la cote en ce moment.
Je sais que ça fait beaucoup de nouvelles, mais là, pour une fois, j'en avais une autre. Je peux finir en disant que Paul Thomas Anderson, PTA... Oui. Le bon cinéaste, en tout cas. Le dernier film qu'il va faire, c'était Licorice Pizza. Mm-hmm. Puis, il a annoncé le casting de son prochain film, qui sera entre autres mené par Leonardo DiCaprio. Mais il va aussi Sean Penn, puis Regina Hall. Puis, on a annoncé, pas tous les noms, mais que ça serait un genre de grand cast, un peu comme quand il a fait Boogie Nights, ouais. Là, et tout, là, qui va avoir de la vedette aussi. Au pied carré, même s'ils ont des tout petits rôles. Et ça serait, on sait rien, mais son projet le plus grand public, qu'on dit jusqu'à présent.
Okay. Et plus gros budget, moi j'avais vu 80 millions quand même.
Ooh, okay. Mais on dirait qu'il y a comme une strate que, et c'est basé sur rien, mais on voit moins de films à, mettons, 40 ou 50. T'sais. Il y a comme du moins de 30, moins de 20, plus petite production, puis rapidement, on tombe dans 70 en montant. T'sais, dès que, eux, ça c'est Paul Thomas, on le verra, mais il travaille beaucoup en décor réel, en lieu physique. Fait que s'il veut beaucoup d'endroits, des chars d'époque, on sait pas, peut-être qu'il fait ça, c'est ça, dans les années 70, 80, 60, puis c'est comme où la facture explose.
Il fait beaucoup de films, justement, un peu plus d'époque, là, moins contemporains. Mm-hmm. Donc, fait que j'ai hâte de voir, mais est-ce que... Ça semble un peu le projet vaniteux dont beaucoup de réalisateurs sont cassés la gueule dans les dernières années.
Ouais,
on pense
ça.
À Babylon, Fablemans.
Ouais. Mais lui, Licorice Pizza, c'était basé sur un peu sa jeunesse à lui. Puis c'est un qui a bien marché. Il avait rapporté une trentaine de millions de dollars
quand même,
pandémie et tout. Là.
Mais tu sais, c'était pas un film, je pense, qui avait coûté si cher non plus. Là, fait que j'ai hâte de voir. Mais ça reste que c'est un des auteurs américains quand même. Les plus intéressants.
Mais je pense que pour
la
production, puis tout, c'est un film fort. C'est un film à un Oscar bait et tout. Là, tu sais, fait que on le fait pas juste pour le box-office. C'est quand même bien que ces projets-là existent.
C'est prestigieux encore avec son nom. Là, c'est ça.
Écoute, bande-annonce, il y a quelques jours, un petit teaser, il y a quelques jours, je pense que c'est hier, en fait, un teaser du biopic Back to Black sur la vie d'Amy Winehouse, qui fait partie du triste club des 27.
Oui.
Qui sera réalisé par Sam Taylor Johnson, donc elle est sa propre personne, mais c'est la femme de Aaron Taylor Johnson, entre autres, qui a réalisé plusieurs films, dont Fifty Shades of Black.
Ah oui, OK.
Of Grey, excuse, Fifty Shades of Grey, je m'en ai avec Back to Black. Fait que dans les nuances de gris et de noir, sa spécialité. Mais c'est des faces qu'on connaît pas tant, là. Marissa, Abella, Jack O'Connell, un nom qui est dans une coupe d'affaires, mais pas...
plus de la télévision britannique, là, de ce que j'ai pu voir rapidement sur Wiki. Fait que, écoute, je suis quand même curieux de voir. C'est une artiste que... je connaissais, mais sans plus. Je connaissais quelques-unes de ses tunes, mais que j'écoutais pas.
Ben, son deuxième album, Back to Black, justement, était un super.
Très iconique.
Ouais, iconique. Puis, dans mon souvenir, elle n'a pas eu le temps d'en faire un troisième. Puis, elle est décédée.
Ok, c'est décédé après celui-là.
Il y avait le premier, Friends, je pense. Frank, ouais. Puis.
C'est avec lui que sa célébrité a vraiment explosé. Mm-hmm. Puis, je pense qu'elle a eu beaucoup de misère à gérer tout ça, je pense.
Ouais, puis, je crois, des problèmes conjugaux, là, de. Je sais pas, là, je veux pas mettre des mots dépendance. Affective ou des affaires ou un chum pas fin ou des trucs comme ça mêlés avec la drogue, l'alcoolisme, la célébrité. Fait que ça, tout ça a dégénéré. Il y avait eu que j'ai pas vu, mais à ce qu'on dit, un excellent documentaire sur elle qui s'appelait Amy, je dirais 2014-2015 à peu près. Je me demande s'il avait pas gagné des prix à l'international là, dans le documentaire ou peut-être même l'Oscar du meilleur documentaire. Je ne me souviens pas, mais je me souviens que c'était. Ça avait été bien accueilli, puis en même temps, il y avait beaucoup d'images de. Le footage de ramasser à gauche puis à droite. Puis là, on disait justement, les parents accusaient qu'il fallait pas faire ce film-là, puis blablabla. Fait que, quand ça choque la famille, c'est qu'il y a peut-être des affaires un peu vraies dedans ou qu'on manipule puis que ça paraît mal, mais bon. C'était le buzz d'il y a presque 10 ans. Voilà, puis je suis surpris que tu l'avais même pas vu. Abigail, parce qu'on en parlait, le nouveau film d'horreur de Radio Silence, donc Matt, Betty, Nelly Alpin et Tyler Gillett. Ça va sortir le 19 avril avec Melissa Barrera.
Ben oui.
Qui l'ont traîné avec eux. Dan Stevens, Catherine Newton et, ben là, j'aurais aimé ça que tu le vois pour que tu vois sa face. Kevin Durant va être là-dedans. Là, okay. C'est qui Kevin Durant? C'est le gars que je te disais qui commande quand. C'est un acteur canadien qui aime le Canadien de Montréal puis il commande quand Cole Caulfield fait des buts sur Instagram. Ben, c'est une comédie d'horreur, dans le fond, des. Plus horreur, mais tu sais, avec un ton léger, là, mettons. Pas une parodie d'horreur. C'est du monde qui se font engager pour. Capturer une jeune fille, une jeune ballerine, puis la mettre, l'enfermer dans un manoir, puis la personne qu'ils engagent pour ça dit « Gardez-la 24 heures, puis nous, comme ça, on va avoir la rançon parce que c'est la fille de quelqu'un de super riche. » Sauf que ce qu'ils réalisent rapidement, c'est qu'en fait, ils se sont fait avoir, puis c'est une jeune vampire, puis c'est plus un jeu qu'elle ou ses parents, je sais pas trop, font organiser ça, puis là, eux, ils se retrouvent coincé là-dedans. Puis, il y a une quote dans Balanon où elle dit ah, j'aime jouer avec ma nourriture et tout. Là. Fait qu'ils sont, ça, là. 4-5 badass qui se font avoir par une jeune vampire ballerine ensanglantée. Fait que, d'où le côté un peu comique. Mm-hmm. Puis, mais horreur quand même. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de démembrement et de...
Ben, je vais aller voir ça avec
19
avec
avril, c'est ça. Puis pour Back to Black, ce serait le 10 mai, avec des films du printemps. C'est tout. Il y a eu une bande-annonce aussi de First Omen, en parlant de franchise d'horreur et de remake. Et tout.
Qui se déroule avant, hein. C'est un préquel.
Ouais, c'est un préquel. C'est La Malédiction, le commencement. Écoute, ça me dit rien. J'ai pas vu de Omen.
Ouais, l'original, c'est le petit garçon avec le tatou. C'est ce qui était le fils du diable.
Ah, c'est... Damien.
Damien, ouais, c'est ça.
Bon, fait que ça va être
premier,
quand
même,
sa mère accoucha de lui, là, j'imagine. Ça va être ça un peu.
Ouais, parce que dans le fond, first, il est adopté dans...
Ben, selon la bande-annonce, on voit que c'est plus... t'es un peu à la Rosemary's Baby, là, une femme enceinte qui se fait manipuler ou sur le seuil, par exemple, là, des affaires comme ça. Ouais. Fait que ça aussi, c'est genre 5 avril. Là. Fait que je pense qu'autour de Pâques, on veut des films d'horreur religieux et le mythe des vampires, des affaires de même. Fait que, hey, on passe-tu au nouveau truc de la
allons-y,
semaine?
Allons-y.
Est-ce que tu fais le méchant ou...
Ouais, allons-y avec... non, allons-y dans le léger avec Mean Girls, la comédie musicale de Samantha Payne.
Ben,
et
ça,
Arturo,
je voulais dire méchant. Méchant Zado. Ouais. Ouais. Tu fais le méchant, c'est Méchant Zado.
Ah, d'accord.
Pas le film est méchant, mais... Bref. Mais là, c'est pas un film de 2004, ça? Qu'est-ce qui se passe?
Effectivement.
Veux-tu nous mettre en contexte?
Ben, effectivement,
dans ça,
ben oui, alors, oui, comédie culte pour une génération. Un peu l'équivalent de mon Breakfast Club. Je pense Mean Girls, c'était vraiment une comédie pour ados qui était quand même assez acerbe pour le temps, là, écrite par Tina Fey de Saturday Night Live, évidemment, qui a fait la série Third Rock from the...
Third Rock,
c'est ça. Ouais. Qui racontait justement l'histoire d'une ado qui était comment on dit, qui a fait l'école à la maison, qui intègre le secondaire, puis qui va voir que c'est une jungle, ouais, et va faire partie de la petite clique, en fait, des hot, des ados un peu bitch et tout ça.
Et donc, qui avait surtout fait connaître Lindsay Lohan,
ouais,
à l'époque.
Ma fille qui était déjà vedette, avait connu quelques succès, quand même, de Parent Trap avant. Oui, avait plus des films un peu Disney. Mais moi, c'était sa grosse période, Lindsay Lohan, mais qui a révélé Rachel McAdams, exemple. Bon. Ouais.
Qui Amanda Seyfried, probablement.
Amanda Seyfried, c'est son premier film même. Donc, puis c'est ça. Puis écoute, au fil des années, c'est sûr, c'est un film qui est devenu culte. Donc, on en a tiré une comédie musicale sur Broadway, toujours écrite par Tina Fey, mise en musique par Jeff Richmond, qui est son mari. Quand même. Ouais, fait que...
Belle complicité.
Ouais, lui, c'était, il s'est occupé de la musique pendant longtemps, Saturday Night Live, mais il se connaissait même d'avant, a travaillé sur 30 Rock, donc suivi toujours un peu Tina Fey. Donc, une pièce qui a bien fonctionné à Broadway, qui avait été en nomination pour plusieurs Tony Awards, qui a fermé malheureusement à cause de la COVID. En fait, la pièce a débuté en 2018, joué jusqu'en 2020 avec la COVID, comme beaucoup de pièces de Broadway, n'a pas survécu malheureusement au retour. Donc, on ne l'a pas ramené. Tourner un petit peu. Là, je joue présentement en Angleterre ou doit réouvrir en Angleterre en 2024. Fait que ça va peut-être revenir en Amérique. Fait que là, on a finalement décidé d'adapter le Mean Girls, mais de Broadway, la comédie musicale. Donc, soyez avertis, il y a des chansons.
OK. Puis, est-ce que je me trompe ou même à la base, c'était un livre?
Oui, c'est tiré d'un livre de non-fiction, donc c'est pas un roman, c'était vraiment un essai qui parle de l'adolescence, puis des clics, des trucs comme ça, puis Tina Fey s'en a juste inspiré dans le ton un peu.
C'est plus un based on qu'une adaptation.
Oui, tout à fait,
là,
oui, c'est ça. Okay. C'est ça.
Fait que bref, Tina Fey est encore derrière tout ça.
Oui.
Fait que, ben écoute, c'est si vous l'avez vu, moi je me souviens, c'était en 2004, fait que j'avais 18 ans à peu près, puis ce film-là était marquant pour nous, là. C'était pas pour les 12 ans. Là.
Non, c'est vraiment...
Je l'ai vu sur le tard, probablement plus en DVD ou en VHS, ouais. Là, tu sais, deux ans plus tard, là. Je me souviens pas être allé le voir au cinéma, mais je me souviens qu'à l'école, 18 au cégep, là, puis tout le monde parlait quand même de ce film-là à cette époque-là, tu sais. Moi, c'est, à part Jenna Fisher, que connue de The Office, qui fait la mère de la jeune fille. Tina Fey revient. Il y a Buzzy Phillips, qui est un visage connu de ma génération, qui a joué, je me souviens plus, mais une couple de films, là, des Judd Apatow, là, puis des affaires comme ça, était là-dedans aussi, dans Freaks and Geeks, par exemple, elle jouait là-dedans. Tim Meadows est un visage connu aussi, des séries d'humour et tout.
Ben, c'est un ancien de Saturday Night Live qui était dans l'original aussi. Donc, lui et Tina Fey reprennent vraiment leur rôle. Tina Fey, une professeure de maths, et lui, ce qui est le directeur d'école.
Ouais. OK. Puis John Hamm et Lindsay Lohan viennent voir.
Ouais, un petit caméo.
Mais les leads, les filles, les gars principaux qui chantent leurs chansons et tout, je les connais ni d'Eve ni d'Adam.
Ben, t'as Aguri Rice qui reprend justement le rôle de Lindsay Lohan, de Katie ou de Caddy, mais qu'on prononce Katie, qui est plus connue pour la Betty Brant dans les nouveaux Spider-Man. Donc, c'est une petite blonde qui tombe en amour de Ned, entre autres, dans le deuxième Spider-Man, me semble.
OK.
Fait que, non, elle n'a pas une grande feuille de route, mais là, je suis allé voir quand même, là, elle a joué depuis longtemps. Elle joue aussi dans une série là, qui a eu un certain succès, Mare of Easttown, une série britannique avec Kate Winslet. Fait que pas un visage archi connu, mais quand vous allez la voir, vous allez dire, je l'ai vu en quelque part, mais elle est plus connue pour Spider-Man, même si c'est un très, très petit rôle, on s'entend. Puis dans le rôle de Regina King, donc la Queen Bee, celle des la Reine des Méchantes, c'est Renee Rapp qui avait joué le rôle à Broadway, elle. Qui a aussi fait maintenant des séries un peu à gauche, à droite, mais c'est la seule, d'ailleurs, de la mouture Broadway à reprendre le rôle.
Parfait. Fait que tu l'as dit un peu en décrivant celui de 2004. Fait que c'est une fille qui a grandi... son secondaire, elle l'a fait à l'étranger, à l'école, à la maison. Là, elle se retrouve parachutée dans le monde secondaire alors qu'elle a comme 16 ans. Va rapidement se retrouver près des filles super cool, mais réaliser qu'elles sont un peu bitch, puis en voulant un peu se venger d'elles tout en étant amoureux d'un mec, et etc. Réaliser qu'elle tombe un peu dans le même piège que ces filles-là, puis devenir une mean girl.
Parce qu'elle tombe en amour avec l'ex de la hotte, puis elle, ça la fait chier. Fait que pour se venger un peu, va reprendre ce gars-là juste pour
la manipuler.
Pour la manipuler, c'est ça. Puis là, ben, elle va vouloir se venger. Fait que les Kubas vont être tout permis à ce moment-là.
Bon, ben, moi, j'ai pas vu le film, mais toi, tu l'as vu.
Ouais.
Fait que...
Puis j'ai même réécouté l'original. Okay. Parce que, écoute, ça faisait quand même 5-6 ans que je l'avais vu. Avec que je l'ai me trempé dedans. Fait
t'as
que,
écouté ouais, l'original après ou avant?
J'ai écouté avant.
Avant, OK.
Ouais, ouais. Puis écoute, c'est une belle adaptation, honnêtement. Juste en termes d'adaptation de musical, honnêtement, j'aurais aimé ça, voir la pièce. Mais je trouve que c'est bien réalisé. La réalisation est vraiment dynamique. Bon, là, on voit qu'il y a quand même 20 ans d'écart aussi. Là, fait que, tu sais, la réalisation est différente déjà. Parce que en regardant l'original, qui s'écoute encore très bien, mais on sent que le rythme est plus lent. Là, on commence à être déjà à une autre époque, là, 2004-2020,
ouais,
c'est fou.
Ouais.
Là. Donc, c'est très rythmé. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que là, toute l'histoire se déroule avec la technologie d'aujourd'hui qui n'existait pas en 2004. Là.
Les
cell phones, c'était les flip phones, c'est tout. Alors que le télécellulaire, t'as TikTok, les réseaux sociaux, tout ça est vraiment bien intégré à l'histoire. Puis honnêtement, les tunes sont fun, sont bonnes. Fait que ça s'écoute super bien. Puis honnêtement, j'ai bien aimé les comédiennes et je pense, même si Lindsay Lohan, je pense que c'est un de ses bons films parce que est comme un peu un running joke. Là. Je pense que même après ce film-là, sa carrière.
Il y a eu, je sais pas si c'était avant ou après, le truc de Coccinelle.
C'était avant ça, ouais.
OK. Fait puis après ça, il y a eu. Tu sais, elle est devenue trop vieille pour jouer des ados.
C'est ça.
Puis elle a essayé de faire une transition vers le dramatique.
Ça a pas marché.
Des mauvais choix, de, ben, ou pas assez d'offres, mais en tout cas des mauvais films. Puis là, c'est tombé ridicule. Puis là, il y a eu de la drogue. Puis là, il y a eu un essai de carrière de musique. Puis là, il y a eu plein d'affaires. Puis c'est ça.
C'était un peu la déchéance par la suite. Donc, fait que j'ai bien aimé la nouvelle Katie. Justement, je trouve que je pense qu'elle était meilleure. J'ai plus aimé son interprétation. J'ai trouvé meilleure comédienne.
Okay.
Renee Rapp, Regina King, elle est très bonne aussi. Même si j'ai une petite préférence peut-être pour Rachel McAdams, qui était un peu plus subtil dans son approche, alors qu'elle est un peu plus gros, mais c'est ça la comédie musicale aussi.
Ouais.
On est quasiment un peu dans la satire. Là. Puis écoute, j'ai vu qu'on a... l'histoire est quand même assez très fidèle. On prend quasiment beat par beat là, les points du scénario. On a fait des petits changements ici et là. Mais on a quand même enlevé quelques gags un peu plus, justement, vitrioliques du premier parce qu'il était quand même assez punché
dans
le ton. Alors là, on est dans les plus gentils, avec les gags qui auraient pu écorcher quand tu réécoutes lui de 2004 aujourd'hui. On a changé ces gags-là. Là.
Okay.
Mais c'est correct. Là, c'est pas une critique, là, mais il y a quand même ça qui était évident là, que ça sort du lot. Fait que bref, je voulais une bonne comédie, quelque chose de léger. Je le recommande fortement. Là. C'est vraiment une belle adaptation. Puis très pertinent de le refaire, comme je dis, juste avec le contexte technologique d'aujourd'hui. Ça nous présente quand même un nouveau film visuel. Là.
Puis de ce que j'ai cru comprendre aussi, tu sais, comme la plupart des comédies musicales. Régulière, ça, ben qu'on voit de plus en plus contemporaine, ça chante pas du début à la fin. T'as quand même beaucoup de dialogues, mais il y a des chansons où là, toutes les figurants, tout le monde s'anime, puis on vit le moment. Mais...
On n'est pas dans Les Misérables qui étaient des chansons du début à la fin.
C'est ça.
Puis même, on a coupé beaucoup, parce que généralement, les pièces de Broadway, c'est comme un 2h15. Là. Fait que là, on a ramené un film de 2h, donc j'ai lu qu'ils ont quand même coupé 14 chansons. Là.
Oh, OK. Bon,
fait qu'effectivement... Je pense qu'il y a même un peu plus de dialogue que de chansons au total.
Ça passe bien.
De mémoire. Fait que ça s'écoute bien. Puis les chansons, un peu, je dirais le comparatif, c'est la série Glee. Pour ceux qui connaissent la série télé Glee, qui avait quand même beaucoup de dialogue au travers de ça. On a même une séquence un peu fantaisiste où ils faisaient leurs chansons. Fait que c'est un peu ça. Là.
Okay.
Parce qu'il y a quand même un décalage. Quand ils chantent, on est un peu dans leur monde. Puis tout ça. Là. Fait que c'est quand même bien. Honnêtement, ça a été une belle surprise. Je suis même un peu étonné qu'on sort ça comme... mi-janvier. Je pense que ça aurait pu très bien faire un film d'été. Honnêtement, là, sort ça en mi-juin, je pense que ça aurait peut-être un plus gros succès. Mais bref, on a peut-être profité d'une période plus tranquille, puis on l'a sorti là. Fait que Mean Girls, honnêtement, une bonne petite comédie à voir, là, puis je vais penser, c'est pas aussi méchant que Bottoms, là, mais tu sais, même genre de catégorie, là, comédie d'ado, mais intelligente.
T'sais. Ouais, OK.
Ouais.
Parfait. Veux-tu aller vers fiction américaine?
Ouais, American Fiction de Cord Jefferson. Donc, il s'agit d'un premier film quand même.
Ouais, très bon premier film avec Jeffrey Wright dans le rôle principal. Les autres, écoute, Tracy Ellis Ross, Sterling K. Brown, que tu as nommé tantôt en nomination meilleur acteur de soutien.
Oui, dans la série de This Is Us, qu'il a fait vraiment connaître.
Ah, en plus aussi, ouais. OK. Voilà. C'est une adaptation du roman Effacement, Erasure, de Percival Everett. On va suivre un auteur qui est surnommé Monk parce qu'il s'appelle Thelonious, et Thelonious Monk est un grand musicien jazz. Fait que Thelonious Ellison il écrit des romans qui fonctionnent pas vraiment. On comprend qu'il est enseignant aussi, ça va pas bien non plus, parce que lui, il revendique beaucoup la... Ben, comme, disons, la normalité, si je peux dire, des Afro-Américains. C'est-à-dire qu'on arrête de penser que c'est tous des rappeurs qui viennent du ghetto puis qui l'ont eu rough. Puis, fait que, tu sais, fait que quand il va dans une librairie, ça le fâche que son livre soit dans genre African-American Essay. Puis, c'est comme, on s'en fout que je sois noir, là, j'écris juste normal. Fait que son éditeur, puis tout le monde dit un peu, ouais, t'écris comme pas assez noir pour qu'on puisse vendre. Fait que tu te retrouves nulle part, puis personne n'est intéressé par ton produit, malheureusement. Puis, ça va pas très bien dans sa vie. Il essaie de gérer sa mère avec son frère et sa sœur qui est en descente un peu en Alzheimer et des choses comme ça. Fait que par un soir, un peu de boisson, il dit « Garde, j'écris de quoi là? All in, from the ghetto avec des grosses fautes d'orthographe puis F you tout le monde puis tout. » Puis là, il publie ça, il envoie... Ben, pas il publie ça, mais il écrit ça, il envoie ça à son agent, puis l'autre dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » C'est comme gênant, puis il dit « Regarde, les Blancs, là, ils aiment ça, il y a une espèce de white guilt, là, puis ils veulent consommer ça en disant « Ah, c'est tellement cru. » Envoie ça, pitch ça partout, juste pour la joke. Ben, finalement, ça pogne, puis il se retrouve à... Il écrit ça sur une fausse identité, il se retrouve un peu coincé dans cette histoire-là, jusqu'où ça va le mener, dans le fond, qu'il est en train d'écrire quasiment un chef-d'œuvre, entre guillemets, alors que lui voulait juste écrire de la merde pour se moquer du système.
Avec un succès populaire qui devient le buzz du moment, là, une espèce de... Ça faisait penser tout ça un peu au tout le débat entourant d'Anne Brown et son Da Vinci Code. Là. Est-ce que c'était de la littérature ou pas? Ou...
Ben, les Twilight ou des que... Bref, tu sais, on ne révélera pas tout ce qui se passe. Ce que je trouve intéressant, j'ai oublié de noter dans ce genre de proposition, c'est qu'on n'est pas juste autour de cette folie-là de se moquer du système puis du traitement, puis juste là-dedans, puis que ça empire. C'est un film de 2 heures, là, 1h55, chose comme ça. Puis il y a quand même beaucoup de temps qui est laissé à lui, sa vie, il est comment, le problème avec ses frères et ses sœurs, la gestion de sa mère qu'il faut qu'il place, les choses qu'il en paye, qui sont un peu... Ils n'ont pas d'argent. Puis moi, je trouve ça super bien, là, parce que des fois, les films qui ont juste une proposition, une petite folie, ben on fait juste être obligé de surenchérir, puis amener, ça fait plus de sens. T'sais. Fait que l'inventivité pour la finale aussi, là, qu'on révélera pas, parce qu'il y a plusieurs fins possibles à ce genre d'histoire. Fait que qu'est-ce qu'on propose finalement au spectateur?
Oui, ben, je pense que c'est là la surprise du film. Je m'attendais justement à quelque chose de plus satirique. Ouais. Mais finalement...
C'est pas si mordant que ça non plus.
Non, c'est vraiment... Tu as quelques petits bouts plus cyniques et tout ça, mais ça demeure au cœur du film un drame familial avec des personnages hyper réalistes, bien campés. J'ai adoré vraiment les dialogues, l'écriture. On y croit. C'est pas le jeu de Jeffrey Wright est incroyable. Je comprends pourquoi il est en nomination, parce que c'est tout en subtilité.
Il me fait penser à... Genre, si le film était à l'inverse, il était blanc ou quoi que ce soit, là, ça se ferait pas vraiment, mais c'est un genre de Paul Giamatti là, qui, manière de jouer, d'un gars qui veut bien faire, mais qui est quand même dépassé par les événements, puis des fois, il est juste con. Là.
Ouais.
Puis c'est
très désabusé aussi.
Ouais,
là,
c'est pas quand même un peu meilleur que les autres, mais il reste empathique. Attachant, nous, on est empathique envers lui. Là. C'est pas un personnage détestable, mais il fait des faux pas, puis on souhaite le mieux pour lui. T'sais.
Fait que non, vraiment, absolument à voir, comme je dis, le film d'une grande qualité, d'une belle profondeur, touchant par moments, drôle aussi. Mm-hmm. Si vous aimez l'humour un peu grinçant ou on aime ça critiquer la société, là, c'est un film qui est extrêmement... excessivement d'actualité, là, fait que le mouvement woke puis les trucs comme ça, c'est intéressant.
Pas, tu sais, on comprend que le livre et le phénomène, il en compare d'autres de fiction là, dans le récit, mais on se moque aussi du système, en fait. Mm-hmm. Là, on est dans le monde littéraire, mais ça pourrait être dans le monde du cinéma aussi, oui, oui. L'espèce de le concept du blockbuster, puis qu'il y a du monde qui sont genre... Ben là, c'est du best-seller, dans le cas. C'est comme, hey, ton livre, on le sent que ça va vendre, puis dans le fond, c'est une machine à argent. Tu sais, on aime ça, pas parce que c'est bon, on aime ça parce que le monde va aimer ça. Mm-hmm. Puis au final, personne ne sait pourquoi on aime ça parce que c'est là, parce que c'est la saveur du moment, parce que c'est ça que les gens recherchent, fait qu'on donne ça aux gens, donc ils cherchent pas autre chose parce que c'est ça qu'on leur donne. C'est
toujours l'équilibre entre l'art et le produit, parce que nécessairement, ces gens-là, oui, ils veulent publier de l'art, mais ils sont là pour faire de l'argent aussi, personne ne veut perdre de l'argent au bout du compte. Là. Fait que tout ça, c'est des facteurs. Fait que non, c'est très nuancé, honnêtement.
Tu sais, ce qu'on comprend, c'est que son personnage, ben, c'est bien pieux de dire « j'aimerais ça ». Pas être riche, mais pouvoir vivre, gagner ma vie en publiant des choses intelligentes et profondes. Mais il y a une analogie dans le film amené qui présente de, tu peux faire des produits de consommation puis des produits nichés, puis ça t'en... T'es pas obligé de faire juste un ou juste l'autre, mm-hmm. Tu peux faire tout, là, tu sais. Fait que, on dirait que dans, même au niveau de la création puis de l'art, il y a des réflexions intéressantes là-dessus, dans un ton quand même assez léger, là, finalement, là. C'est pas un drame, là. C'est vraiment une comédie dramatique, tu sais.
Ouais, non, tout à fait. D'ailleurs, le film avait gagné le prix du public au Festival de Toronto, le TIFF, l'automne dernier, fait que quand même, c'est pas peu dire. Puis, moi, honnêtement, là, je lui décernerais l'Oscar du meilleur film.
Ouais, 2023,
c'est ça. Ça m'a de loin beaucoup plus touché qu'Oppenheimer. Je trouve que c'est un côté feel good en quelque part. T'as le sourire tout le long, mais t'as des moments touchants. Je trouve que le réalisateur écoute vraiment, là, est à surveiller. Je trouve que j'ai bien hâte de voir, mais d'ailleurs, je suis allé lire un petit peu. Puis, quand même, un scénariste qui avait gagné un Emmy pour Watchmen, qui était comme une suite.
OK, Court Jefferson.
Oui, Court Jefferson, c'est ça. Il faisait partie d'équipe de scénaristes de Watchmen.
OK.
Qui était comme une suite hypothétique à la bande dessinée, surtout plus qu'au film, là, mais qui avait quand même surpris par son propos. Puis justement, qui traitait beaucoup de la question raciale, ça, qui était au cœur de cette série-là. Donc, je pense que c'est une thématique qui aime bien exploiter. Donc, manquez pas ça, American Fiction.
Ouais, puis si vous comprenez que là, on parle des Oscars autour, c'est parce que c'est un film de 2023 qui est sorti limité en décembre à une couple de places. Fait que là, nous, ici, au Québec, dans quelques cinémas, il vient de prendre l'affiche, ou peut-être la semaine dernière à Montréal. Mais ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une des belles perles qui s'écoute super bien. Il y a réflexion, mais ça te fait pas sentir mal ou quoi que ce soit. Je trouve ça super bien.
Moi, je qualifie vraiment un film intelligent.
Ouais, c'est ça.
C'est carrément ça. On ne prend pas le spectateur pour un idiot. Puis tout est fait avec soin, précision et qualité.
Voilà.
Est-ce qu'on peut dire la même chose du prochain? Beekeeper de David Ayer?
En tout cas, The Beekeeper, le personnage principal dont le nom m'échappe, Adam Clay, je ne sais plus, joué par Jason Statham, lui, il agit avec précision et doigté.
Là, as-tu droit à un Jason Statham plus Fast and Furious ou Jason Statham plus Expendables là, dans l'échelle des Statham? Où tu le situes?
Ni un ni l'autre. Okay. Je t'explique. The Beekeeper, le nouveau film d'action de David Ayer, lui qui est derrière... des bons films puis des moins bons films. Fury, End of Watch, c'était quand même des perles intéressantes. Mais le mauvais Suicide Squad, pas celui de James Gunn. Il y a Jason Statham dans le rôle principal. Josh Hutcherson est là également, lui qu'on a vu. Ça faisait extrêmement longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais. Et deux films en quelques mois. Là, il était dans le film d'horreur
Five Nights at Freddy's.
Et Jeremy Irons aussi qui est là-dedans.
Okay, est-ce qu'il fait le méchant britannique?
Non, je dirais que le méchant, c'est plus Josh Hutcherson.
Ah, OK.
Mais Jeremy Irons est comme son bras droit qui doit le protéger ou quelque chose comme ça, là, un peu, là, de service de protection et d'intelligence, là, connecté avec la CIA et des affaires de main. C'est un scénario de Kurt Wimmer qui est un gars de film d'action, qui a fait Salt, Ultraviolet, des propositions un peu différentes, Equilibrium, c'était lui, ça fait très longtemps qu'il écoute des films, qu'il écrit des films. Il a fait aussi plein de remake de Point Break, de Children of the Corn, de Total Recall, de L'Affaire Thomas Crown. C'est un scénariste prolifique d'action. Fait qu'il est en terrain connu, il y a pas de problème là. Fait qu'il y a le personnage de Jason Statham, il est pas en mode Fast and Furious ni Expendables parce qu'il est pas drôle. Le film est... T'sais, Hutcherson, il y a des affaires qui peuvent être un peu drôles, mais non, c'est ça, il est très sérieux. Lui, on comprend qu'il a des skills, il était pour une agence un peu qu'on va apprendre à connaître, qui est genre de Hive, ils sont des beekeepers. Il est un beekeeper, c'est un gardien d'abeilles, là, dans le fond. Là. J'oublie comment ça, on appelle ça. Le...
apiculteur, ça?
Non, ça, c'est les pommes, mais ça ressemble à ça. Ouais. Mais...
acériculteur.
Oui, acériculteur, je pense que c'est ça. Fait que littéralement, il s'occupe d'abeilles parce que comme un peu, il était là-dedans, puis maintenant qu'il est à la retraite, ben il s'occupe d'abeilles. Il est recueilli par une gente dame que, elle, sa fille, est rendue loin. Fait qu'il loue un espace dans la grange, vit paisiblement et l'aide dans ses corvées. Sauf que cette bonne dame va se faire flouer sur Internet, un pop-up apparaît, votre ordi est brisé, appelez ici. Puis là, cette jeune dame va téléphoner et donner ses accès parce qu'on dit qu'à distance, il faut l'aider et perdre tout son argent, incluant de l'argent d'une charité qu'elle s'occupait. Et va mettre fin à ses jours dans ce désespoir-là. Alors lui, notre personnage de Satan, va vouloir la venger. Sauf qu'en faisant ça, va révéler qu'il était, de par ses actions, qu'il appartenait à une super unité spéciale, un peu à la Jason Bourne, là, off-grid, que personne n'est au courant. Fait que ben, ça va déferler sur lui ben, les gens qui vont essayer de se protéger, le FBI qui va rentrer là-dedans, la CIA qui va checker ça. Tout le monde est après lui, mais c'est une machine de guerre et tout. Fait que dans le genre, je dirais quand même Polymax, c'est un peu comme, tu sais, il y a énormément de films d'action qui se font, des straight to DVD, des genres de TV movie et tout. On est un petit peu au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce genre de film-là, mais vraiment bon. Fait qu'il mérite sa place au cinéma. Mais c'est pas vraiment bon. C'est pas John Wick, là. Tu sais, il amène pas quelque chose de nouveau sur la table. Comme je vais reprendre les paroles de Mediafilm, ils disent, c'est pas un film qui réinvente la roue, mais c'est un film qui fait très bien tourner la roue.
Okay.
Fait que c'est ce genre. J'appelle ça un film de papa. C'est un film d'action avec des vedettes, mais qui sont quand même à leur meilleur dans un scénario qui leur permet ça. Fait que moi, j'ai passé un bon moment en l'écoutant. Il y a des bonnes séquences d'action, mais il n'y a pas des... C'est ça, c'est pas John Wick. Là. Il n'y a pas des grandes chorégraphies d'action interminables. Elles sont vraiment bonnes, celles qui ont là, mais les scènes durent 1 minute 10. Là, t'sais, tout, t'sais. Fait que moi, j'ai trouvé ça super divertissant. C'est quand même mon plaisir coupable. C'est ça que j'ai découvert un peu cette année. On a la chance avec notre travail de pouvoir écouter énormément de films, de prendre le temps d'en faire, d'avoir accès à des salles de cinéma. Puis au cinéma, j'adore écouter des excellents films, Anatomie d'une chute, puis des films étrangers. On parlera dans quelques semaines de La salle des profs qui représente l'Allemagne dans le meilleur film étranger, puis des choses comme ça. Mais chez moi, je suis pas capable d'écouter ces films-là. On dirait qu'il y a trop de distractions. J'ai tout le temps, un peu le temps. J'écoute mes films en 3 soirs différents. Fait que j'écoute énormément d'action. Puis d'horreur poche, des vieux films, des So Bad It's Good. J'écoute des films, mais j'écoute pas des bons films chez moi. Fait que j'étais content d'en avoir un sur grand écran comme ça, d'une shot, dans cellulaire fermé. J'ai passé vraiment un bon moment, mais il y a quand même une touche sérieuse. C'est pas un blockbuster, c'est pas le Statham de The Meg 2 qui dit des jokes. Puis, tu sais, il est beaucoup là parce que c'est lui. Un peu le protagoniste, c'est lui qui veut venger. Puis on est de son bord parce que c'est super cruel de juste flouer des personnes âgées. Puis eux, on les voit dans leur salle de contrôle où ils sont devant des ordis. Puis c'est un centre d'appel, mais tu sais, tout le monde est sa coke, style Wall Street un peu. Puis c'est comme, yeah, on l'a. Tu sais, c'est clair qu'ils ont dû s'inspirer de Le Loup de Wall Street de Scorsese, là, quand il booste son équipe au début. Come on, puis on y va. Ben, tu sais, Hutcherson, puis les gérants d'équipe sont comme de même, là. Fait que c'est comme, yes, on fait de la grosse argent, all right, tu sais. Faut rester devant vos ordi, il faut atteindre 1 million, blabla, mais en flouant des personnes âgées à travers l'Amérique, tu sais, ou le monde. Fait que c'est sûr qu'on trouve que c'est tous des salauds, tu sais. Mais tout ça va révéler aussi des choses cachées, okay. Encore plus, et qui est derrière tout leur stratagème et tout. Fait que très simpliste dans sa façon, c'est ce que vous pensez que c'est, mais c'est bien fait dans sa manière.
C'est bien pour ce que c'est.
Voilà. Dans les autres sorties de la semaine, il y a le drame social Rien à perdre, qui est aussi un premier film, parce qu'on en a quelques-uns cette semaine, de Delphine Delogec, un film français qui met en scène Virginie Efira, qui joue le rôle d'une mère monoparentale qui est serveuse dans un bar, donc qui travaille de soir, de nuit. Elle a un garçon d'à peu près 17-18 ans, puis l'autre qui est beaucoup plus jeune, 9-10 ans, mettons. Peut-être même plus jeune que ça. Peut-être plus 8 ans. Puis, pendant qu'il est au travail un soir, le jeune de 8 ans va se réveiller la nuit, vouloir se faire des frites, se brûler avec de l'huile. Il arrive pas à rejoindre la mère, fait que là, le grand frère amène l'autre à l'hôpital, puis on fait « bon, ben, OK, tout est beau, finalement, il n'y a pas de danger. » Mais là, rentre en ligne de compte, ben, la DPJ, mais française, là, je sais plus, mais la protection de la jeunesse aussi. Puis dans le fond, ils vont juger que la mère est comme pas apte à s'occuper des enfants, fait qu'ils vont saisir le plus jeune garçon, l'autre, elle peut le garder parce qu'il est comme presque adulte. Puis en disant, ben c'est juste pour 2 semaines. Puis là, elle se retrouve rapidement dans ce processus-là où le 2 semaines devient plus longtemps, avoir son enfant très peu, mais là, il faut qu'elle change de job. Puis elle se retrouve vraiment coincée là-dedans. Puis c'est vrai, tu sais, son personnage, c'est pas une junkie, c'est pas une alcoolique, c'est juste qu'elle travaille de soir, monoparentale, d'habitude, tout va. Elle donne beaucoup d'autonomie à ses enfants. Puis son plus jeune est quand même. Écoute, il n'y a pas de diagnostic, mais c'est un enfant difficile. Là. C'est un enfant spécial, d'une certaine manière. Il pique des crises, des choses comme ça. Fait que là, on dirait que le fait qu'il est éloigné empire la situation. Elle, c'est une espèce de mère courage qui tu sais, la fameuse... voyons, comment ça, quand un parent est tout seul, là, j'ai oublié l'expression...
qui est tout seul.
Ben, qui n'a pas de conjoint, là. Un parent
monoparental,
c'est ça. Qui travaille fort pour offrir à ses enfants. Son plus vieux, il étudie en musique. T'sais. C'est comme, OK, tu vas faire de l'art, c'est bien correct. C'est ça qui te passionne. Puis on drive ça, puis tout. Puis à un moment donné, on y enlève l'enfant. Puis plus elle veut prouver que est intense, puis que c'est une bonne mère, ben on dirait que ça empire la situation parce que de l'autre côté, tout le côté... bureaucratiques, c'est dès qu'ils voient un petit quelque chose, ben, on n'est pas sûr, on aimerait mieux prendre parce que tu comprends qu'ils ne veulent pas prendre de risques avec la sécurité des enfants. C'est, mm-hmm. t'sais, c'est bien fondé, mais tu as quelqu'un qui est en vie puis qui veut que les choses avancent puis prouver que c'est correct, puis versus ben, un juge qui va vous rencontrer dans 4 mois. Puis même d'un groupe de soutien à capote, hey, ça fait 12 ans, vous autres, que vous essayez de revoir votre enfant, c'est débile. T'sais. Puis elle est comme, je ne suis pas droguée, je ne pars rien, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que, bref, ça s'appelle Rien à perdre. Ça avait été présenté à Cannes dans la section Un certain regard. Écoutez, c'est un pléonasme de dire que Virginie Efira est excellente dans le film, est toujours super bonne. Mm-hmm. C'est quasiment aussi un pléonasme de dire qu'on va la voir nue. Puis le film dit rien de ça, s'enligne pas là-dessus. Puis à un moment donné, pow, shot de poitrine. OK, excusez, mais c'est un film français, fallait, je sais pas trop, là. Et voilà.
Mais c'est long, parce qu'à une époque, c'était vraiment chose courante. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça l'est moins, mais pas dans son cas à elle.
Ouais, c'est ça. Comme... C'est plus parce que, on dirait que je le mentionnerais pas, mais ça a comme pas rapport dans le film. Puis soudainement, ça te surprend parce que justement, il y a du monde qui sont après elle, puis elle flash ses seins pour que les gardiens, les policiers, ils touchent pas.
Okay.
Fait que nous aussi, ça fait, hey, what the fuck, j'ai pas vu ça aller. c'est ça. Fait que c'est des super bons dialogues, très humains, très proches. Fait que, ouais, une petite perle là, qui, dans quelques cinémas qui sera pas là très longtemps, rien à perdre. Que je vous conseille. Et aussi un drame français, La Petite, de Guillaume Niclou, mais qui met en scène Fabrice Luchini, qui est un bien-aimé du public québécois et du public français aussi, qui joue un père de famille dont son fils est homosexuel et avec son conjoint, donc son fils et son conjoint, attendent un enfant d'une mère porteuse. Sauf que les deux garçons, malheureusement, décèdent dans un accident. Fait que lui, il se retrouve, il n'y a plus de fils, mais il y a une dame quelque part qui est enceinte, mais qui ne veut pas l'enfant parce que c'est eux qui devaient l'avoir. Fait que donc, Luchini va entrer en contact avec cette femme-là en Belgique pour essayer de savoir qu'est-ce qu'elle veut faire avec l'enfant. Puis si j'ai bien compris, je n'ai pas vu le film, mais elle a vu le donner en adoption parce qu'elle dit « moi, je ne veux pas l'enfant », mais lui est comme « ben non, il faut que vous le gardiez » parce que en plus, c'était le sperme de son fils, donc lui, il a un lien avec ça, c'est littéralement... sa descendance, mm-hmm. mais Luchini a 70 ans, il veut pas être le père non plus. Fait que bref, cette relation-là qui se construit entre ces deux personnes-là qui sont un peu flouées, là, si on veut, entre guillemets, dans cette situation, dans ce décès tragique.
Alors, c'est une prémisse originale, je trouve ça intéressant.
C'est ça pour La Petite. Et écoute, c'est suffisant pour cette semaine. On avait beaucoup de nouvelles. Je pensais qu'on ferait un court épisode, mais finalement, on est à 1 heure environ. La semaine prochaine, plus petite semaine quand même, mais il y a entre autres, on va essayer de voir, Les Filles d'Olpha, qui s'appelle Four Daughters dans son nom en anglais, je me souviens plus quel pays ça représente en Oscar du film étranger, quelque chose du Moyen-Orient, je pense, mm-hmm. qui est un mélange entre reconstitution et documentaire, qui a fait un tabac à Cannes aussi, si je me souviens bien.
Je pense que l'action se déroule en Afghanistan, mais je ne sais pas si c'est l'Afghanistan, le pays, par exemple.
Ou l'Iran, ou quelque chose comme ça. J'ai très hâte de voir La Zone d'intérêt, qui est, on en dit beaucoup de bien, un film du Royaume-Uni. Je pense qu'il sort la semaine prochaine à Montréal, mais pour plusieurs autres marchés, ça va être plus le 26. Fait qu'on va le voir plus tard dans notre cas. Et bien, on vous réinvite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous avez l'intention d'écrire des vacheries sur vos collègues, c'est peut-être pas prudent de les écrire dans un livre.